Nous allons terminer avec une dernière séquence consacrée à l'intégration de la lutte contre les discriminations dans les politiques publiques, avec la mise en place des dispositifs et des actions spécifiques. Monsieur Romero-Michel, comment intégrer des axes de lutte contre les discriminations dans les politiques publiques ?
Il faut évidemment, au-delà de cette volonté politique sur laquelle on revient toujours et qui est quand même essentielle, bon, qui aujourd'hui est quand même partagée dans quand même beaucoup de collectivités locales, ce travail d'abord doit se faire de manière concertée et transversale. Hein. Je reviens un peu sur ce qu'on a dit. Concertée, c'est-à-dire que il faut évidemment travailler à la fois avec les syndicats, avec les associations, avec tous les groupes politiques, parce qu'on ne mène pas une lutte. On mène pas une lutte contre les discriminations seule contre tout le monde. Et tout ça doit se faire totalement en conversation, ensemble. Et puis évidemment transversal. Je le disais tout à l'heure, dans chaque domaine, si chaque élu et si chaque service ne s'empare pas de la question, ça ne fonctionne pas. Quand on est en charge de l'accessibilité, de la situation des personnes en situation de handicap, la question des discriminations est essentielle. D'ailleurs, dans la Défenseure des droits, c'est le deuxième motif de recours. Donc ça veut dire qu'évidemment, on doit travailler particulièrement dans ce domaine, dans le sport. Le sport, on le voit bien. Et d'ailleurs, l'adjoint au sport a lancé aussi un plan contre les discriminations, parce qu'on voit bien que c'est pas très facile dans certains sports. Par exemple, pour les femmes, c'est pas très facile aussi pour les personnes LGBTQIA+ dans ce domaine-là. Donc, je pense que c'est à la fois dans cette concertation et puis dans ce travail en commun que doivent mener à la fois, je le dis, chaque élu, mais aussi chaque service en s'appuyant. Vous avez aussi les services à Strasbourg. Nous avons un service aussi sur l'inclusion, contre la lutte contre les discriminations, qui s'occupe à la fois. On a voulu nous les mettre ensemble l'égalité femmes-hommes, qui est portée par contre par une autre élue, mais qui a aussi d'autres délégations, et la question de la lutte contre les discriminations.
Merci. Madame Jung, vous nous avez parlé tout à l'heure des lunettes des discriminations à avoir quand on fait des politiques publiques, et donc dans votre collectivité territoriale, c'est quoi les dispositifs qui sont mis justement pour intégrer ces lunettes des discriminations dans les autres politiques ?
Donc, à la ville de Strasbourg, on a un plan de lutte contre les discriminations qui comprend trois volets. On a un premier volet autour de la prévention des discriminations, donc de la transformation des pratiques, de la réflexion sur les représentations, les stéréotypes. Un deuxième volet autour d'accompagner les initiatives en direction des victimes de discrimination. Et puis un troisième volet plus autour de la mobilisation du territoire et de faire connaître ces enjeux. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du plan, mais je vais peut-être citer quelques actions phares. D'abord, on a mis en place un observatoire des discriminations depuis l'année dernière. Donc là, on a produit deux enquêtes et on a une première enquête donc, qui est faite avec le CNRS et Yannick Lorty, donc, qui est un des chercheurs les plus reconnus sur la question de la mesure des discriminations. Et donc, c'est une enquête qui porte sur les discriminations dans l'emploi à l'échelle de l'Eurométropole. Donc, on a fait un testing, c'est-à-dire qu'on a envoyé des candidatures aux entreprises de l'Eurométropole, à 3000 entreprises, en faisant varier le lieu de résidence, le sexe et l'origine, en utilisant un patronyme d'origine nord-africaine. Et donc cette enquête, elle a été très intéressante parce qu'elle nous donne des résultats probants, notamment sur une forte pénalité pour les candidats qui ont un nom à consonance étrangère. C'est intéressant aussi parce que c'est une enquête qui va être menée dans d'autres collectivités. Donc on va avoir et les résultats nationaux et locaux. Mais pour nous, ce type d'enquête, il est particulièrement intéressant parce que ça nous amène à dire à nos employeurs, les municipalités, mais aussi les employeurs privés, on a vraiment un problème de discrimination, c'est sur notre territoire, ça se passe pas juste ailleurs, et du coup, nous, ça nous permet ensuite de mobiliser et d'aller vers un plan d'action. Donc, de sortir un peu de cette question du déni, parce qu'il y a aussi l'idée à Strasbourg, il y a l'humanisme rhénan, etc., donc nous, on est moins concernés, ce type d'enquête, ça permet de montrer que ce n'est pas le cas. Donc, cette question de l'observation, j'y reviens souvent, mais parce que ça permet permet vraiment de sortir du déni. Et pour des personnes qui sont pas très au fait, ça leur permet de se mobiliser. Une autre action phare, c'est-à-dire qu'on a un espace qui s'appelle l'espace égalité, qui a priori est unique en France, mais je demande qu'à être contredite. Donc si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à me le faire valoir. Là, c'est un lieu donc, de sensibilisation en direction des plus jeunes sur la question des discriminations. Donc là, on travaille sur les 26 critères de discrimination. C'est comme un petit musée dans lequel on a plus d'une vingtaine d'ateliers qui nous permettent de travailler sur les différents critères. Et puis notre pari, eh ben, c'est qu'en sensibilisant les enfants et les jeunes, on arrivera peut-être à avoir des générations futures qui seront moins à même de discriminer. Enfin, on a un dernier volet de travail, enfin un troisième volet que je voudrais citer, c'est tout un travail de sensibilisation de ce qu'on appelle les premières oreilles. Donc de se dire aussi, on ne peut pas faire porter aux victimes de discrimination la charge d'aller porter plainte, de défaire des démarches, etc. On sait de toute façon qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a que 2% des personnes qui s'estiment victimes de discrimination qui vont jusqu'au dépôt de plainte. Et donc de se dire, on va sensibiliser tous les professionnels un peu intermédiaires qui sont en contact avec les publics. Ça peut être le conseiller dans une mission locale, ça peut être un conseiller familial dans un centre dans un centre socioculturel, etc. Donc ça embarque vraiment un nombre de professionnels très variés, mais qui sont dans une relation de confiance avec les publics, et en se disant que eux, ils entendent des situations de discrimination, mais ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas forcément quoi en faire. Et donc, en les sensibilisant et en les formant, eh bien, on arrivera peut-être à faire remonter des situations.
Et comment vous construisez le maillage territorial dans le cadre de la lutte contre les discriminations et avec quel type d'acteurs ?
Donc, c'est vrai que c'est une lutte qu'on ne peut pas mener seule. C'est important de le travailler vraiment en interpartenarial. Donc nous, on va travailler déjà en interservice avec les autres services et directions de la collectivité pour avoir cette dimension de transversalité dans les politiques publiques, donc avec le sport, mais aussi avec la culture, etc. Par exemple, là, on mène un beau projet avec les médiathèques, puisqu'il y a eu une pétition citoyenne à la ville de Strasbourg, donc portée par une association qui a demandé la création d'un centre ressources sur les questions de racisme. Donc ça nous amène à travailler sur les médiathèques, avec les médiathèques sur ces enjeux-là. Donc il y a déjà toute la dimension interservice et interne, mais on travaille aussi beaucoup avec les acteurs associatifs du territoire qui sont engagés dans cette lutte, donc notamment les associations d'éducation populaire, les associations d'aide aux victimes, voilà, tout un certain nombre d'associations qui portent ces enjeux-là et qui peuvent aussi nous faire remonter un certain nombre de constats, qui ont des actions au quotidien, qui accueillent les personnes. Et puis on va travailler également avec d'autres institutions, le Défenseur des droits, c'est un partenariat très clé dans le domaine, mais également l'Éducation nationale sur tous les aspects sensibilisation et d'autres acteurs encore.
Merci Madame Jung. Monsieur Remeron-Michel, dernière question. Quelles sont les grandes priorités à venir dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans les collectivités territoriales?
Alors, les priorités, bon, je pensais surtout ce qui, enfin, elles sont les mêmes qu'on a actuellement et comment on les met en œuvre. Je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est d'abord de mettre en place des plans qui soient évidemment totalement concertés. Je reviens, le plan égalité, le plan LGBT, la stratégie globale sur l'accessibilité, et puis évidemment aussi, par exemple, à Paris, le label égalité diversité que nous avons obtenu. La deuxième des choses, c'est aussi de communiquer. Communiquer comment ? En participant à un certain nombre d'actions importantes. La semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de mars, qui est une semaine nationale, c'est une semaine où on est très engagé. J'ai peu parlé des arrondissements, mais je rappelle qu'à Paris, comme on a une situation particulière comme à Lyon et à Marseille, les arrondissements aussi y participent. Et ça, c'est un moment qui est extrêmement fort. On a à Paris, on a créé depuis 3 ans un festival du film contre les discriminations. On n'avait pas à Paris un festival, on avait des festivals sur la lutte, sur les questions LGBT, sur etc., mais pas un festival global. Et ça a été extrêmement important parce que ça a permis d'abord des gens venaient pour voir des films dans des salles de cinéma et ils assistaient après à des débats. Et je pense que c'était intéressant parce que c'était des publics qu'on ne touchait pas forcément sur ces questions-là. Je pense aussi à ce qu'on a fait autour du 17 mai, puisque la ville de Paris a voulu être pour la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, a créé un prix international, a créé un bal de l'amour qui était un moment de réunir tout le monde au-delà voilà, c'était pas un bal simplement pour les personnes LGBT, c'est un bal pour tout le monde. Et je pense que ça, c'était important. Le travail qu'il y a à faire sur l'accessibilité aussi, par exemple, de nos réunions. Avec à chaque fois évidemment des interprètes en langue des signes, et ça c'est important dans les documents qui sont faits, et ça aussi c'est un des enjeux qui est important parce que tout le monde n'a pas la même maîtrise du français, et donc il faut avoir dans un français facile qui permette à chacun de pouvoir comprendre. Pour les plus jeunes, vous évoquiez tout à l'heure, pour les plus jeunes, nous on a mis en place un système qui s'appelle Collège pour l'égalité, où là une fois de plus on demande aux pairs, c'est-à-dire aux associations, de venir dans les collèges faire de la formation sur l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les discriminations. Et dans le plan qu'on vient de voter, on propose de faire ce Collège pour l'égalité, de le faire aussi dans le primaire, parce qu'on se rend compte que c'est évidemment au plus tôt qu'il faut être, et qu'on a des instruments pour ça. Parfois, ça fait peur de parler de ces questions aux plus jeunes, mais je pense que c'était extrêmement important. Et puis, bien sûr, le soutien aux associations, et particulièrement dans certaines actions, vous parliez de testing, nous avons notamment soutenu SOS Racisme dans son action de testing, notamment dans le logement. Vous savez que c'est un des problèmes qui est évidemment important à Paris et où les discriminations sont fortes. Donc on voit qu'on a en tout cas plein de possibilités dans une collectivité locale, à la fois d'impulser en tant qu'élu et en tant que fonctionnaire, des politiques qui soient des politiques pour tous les habitants de la ville, mais qui soient aussi des politiques évidemment totalement inclusive pour nos personnels, avec des biais évidemment anonymisés. Quand quelqu'un s'estime discriminé dans son boulot, évidemment qu'on imagine qu'il faut, et on a créé aussi bien sûr un système pour permettre à un agent qui estime dans le cadre de son service être discriminé, qu'il puisse d'une manière anonyme, sans que ses responsables de service le sachent, pouvoir saisir l'administration et lui donner raison si évidemment il a raison, ce qui n'est pas évidemment toujours le cas. On peut parfois avoir l'impression d'être discriminé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Merci. Et Madame Young, est-ce que vous pouvez aussi nous donner votre avis sur les grandes priorités à venir dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans les collectivités ?
Bah, les grandes priorités, à mon avis, c'est de continuer déjà ce qui est mis en place, notamment autour de cet enjeu d'employeur exemplaire, où je trouve que la question de la lutte contre les discriminations, elle est quand même pas encore au même niveau de travail et de réflexion que sur les questions d'égalité femmes-hommes et de handicap. Je dis pas que tout soit rose dans l'égalité femmes-hommes ni le handicap, il y a encore beaucoup à faire. Mais justement, je trouve que ce travail sur l'égalité femmes-hommes, notamment, il est très intéressant parce que je pense qu'on n'en parle pas du tout aujourd'hui comme on en parlait il y a 15 ans. Et ben, ça serait un peu le même chemin qu'il faudrait prendre pour la lutte contre les discriminations, dont on parle très peu, qui est encore vu comme une affaire de spécialiste, quelque chose de pas très important. Et pour vraiment le mettre sur la table, voir cette dimension systémique et assez globale. Donc ça me paraît un des premiers enjeux. Un autre enjeu aussi dont on a peu parlé, mais qui me semble important à mettre en avant, c'est un terme qui peut paraître un peu jargonnant, mais c'est cet enjeu d'intersectionnalité, c'est-à-dire de croiser les différentes discriminations, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu plutôt des politiques peut-être par public. Or, nous, par exemple, on a fait une autre enquête à l'échelle de notre territoire sur le ressenti des discriminations des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises, et on se rend compte que 45% des personnes s'estiment victimes de discrimination, mais sur plusieurs critères à la fois. Et donc ça aussi, c'est comment est-ce qu'on pense les politiques publiques, pas seulement sur un seul critère, mais qu'on se dit, ben oui, souvent la question de l'origine, ça va être croisé avec la question du genre ou avec la question de l'handicap, donc vraiment d'avoir cette dimension très globale d'inclusion. Ce serait le deuxième volet qui me semble important.
Merci beaucoup à vous deux pour ce mot de la fin. On arrive donc à la fin de notre table ronde.